Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
¡Vencedos!
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire. Heureux de vous retrouver. On est quatre pour vous accueillir aujourd'hui, Séverine, Jean-Jacques, Olivier et moi-même Guillaume. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va pas faire une émission sur la crise bancaire, mais on va sûrement parler, je m'avance peut-être un peu, mais je crois que pas trop quand même. On va sûrement parler de l'esprit du capitalisme et des conséquences de la recherche permanente du profit. Doit-on tout rentabiliser? Est-ce que le système de santé publique est menacé? Comment ça marche et où va-t-on? On parle de système de santé à la française et à l'américaine, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va aborder cette question avec un invité qui a quelque chose à dire, il s'agit d'Émile Berthier. Émile Berthier, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors Émile, on va se tutoyer parce qu'en fait on va pas faire semblant de pas se connaître parce qu'on se connaît quand même. Donc tu es médecin urgentiste, tu as pas mal travaillé à l'hôpital de Narbonne quelques années et tu es maintenant à Manosque, toujours aux urgences.
Toujours.
Tu es adhérent à la MUF.
Oui.
La MUF, tu vas nous expliquer ce que c'est, hein, ce fabuleux sigle. Je crois que c'est l'Association des médecins urgentistes de France.
C'est ça.
On en parlera tout à l'heure. Oui. On est parti pour une heure d'émission.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Alors Émile, tu vas voir, dans cette émission, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, il y a quand même une tradition. On démarre toujours par un coup de gueule en fait. C'est un peu notre psychanalyse à nous. C'est le principe de ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques qui s'allonge, c'est ça?
Ouais, je vais m'allonger, mais en fait, ce qui est surtout rigolo dans notre façon de faire notre coup de gueule, c'est rarement un gros coup de gueule en fait. C'est surtout une volonté des fois de rendre hommage à des choses ou à des gens. Là, ce coup-ci, c'est de parler avec vous de la journée du 17 octobre. Alors, qui sait ce que c'est que la journée du 17 octobre? Séverine, je vois que tu me regardes.
J'en ai pas la moindre idée, Jean-Jacques, explique-moi tout.
Pourtant, je crois que je t'y ai croisé, c'était la journée du refus de la misère, donc c'est une journée mondiale a priori, et bon, nous on a vu que l'aspect montpelliérain, une journée où se retrouvaient tout un tas d'acteurs sociaux sur la question de la prévention de l'exclusion, et c'est pas la moindre des choses, des gens qui vivent l'exclusion, qui vivent la misère, qui se regroupent cette journée-là, pour essayer d'alerter la population, pour essayer de dire « Attention, nous existons, vous passez à côté de nous en permanence, vous ne nous voyez plus et pourtant on est là. »
C'était ça tout ce monde sur la comédie, je me demandais pourquoi ils n'avaient pas de pancarte.
Et à l'occasion donc de cette rencontre entre les citoyens lambda, on va dire, et ces personnes qui habituellement se retrouvent plutôt du côté des trottoirs, il y a eu une manifestation, alors une petite manifestation, il n'y avait pas une grande foule, ça se passait à 9h du matin, et vous allez voir le parcours, pour ceux qui connaissent bien Montpellier, c'était de la gare à la place de la Comédie, c'était pas la plus grosse manif du siècle, et pourtant il y avait du monde, il y avait de l'émotion, on a fait un petit reportage là-bas, et je voulais vous faire entendre quatre clowns, en fait, elles sont clowns dans la vie, et elles sont venues faire un petit peu d'agit-propre, c'est-à-dire... un petit peu de provocation, de montrer comment on peut parler de la misère d'une autre façon. Et elles ont animé la manifestation, on écoute ça.
17 octobre 2008, journée mondiale du refus de la misère. N'abandonnons personne.
Est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit?
Eh bien, j'ai moi-même du mal. Alors, n'aie pas peur. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc... N'aie pas peur de ma différence, elle peut enrichir la tienne. N'aie pas peur de la différence, elle peut enrichir la tienne.
Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous alors?
Edwige. Je m'explique, je suis députée européenne de la principauté de Misérville et je suis venue avec mes concitoyens. Pour manifester, pour soutenir, parce qu'il y a de la pauvreté partout, vous savez. Chez nous aussi, il y a de la pauvreté. Vous voyez, j'ai dû vendre mon yacht tout à l'heure, là. Je suis dans la pénurie, mais mon trader, là. Hein?
Ancien trader.
Ah, trader au chômage, j'ai marqué.
Oui, c'est cela.
C'est-à-dire que vous avez tout perdu?
J'ai gardé un peu une esthétique, disons, trader, mais j'ai plus de pompe, quoi.
Ah, oui.
Et vous, vous êtes stagiaire au ministère?
Ouais, moi j'apprends. J'apprends à ministérer la misère. Elle apprend.
Ah, mais vous êtes avec votre ministre
Oui, on s'est déplacé. Hein. Ouais. Ah ben, vous voyez, c'est quand même. Nous, on est solidaires dans notre pays. Enfin, dans notre principauté, je veux dire. Nous, c'est la solidarité. Voilà.
Mais alors, votre principale fonction, c'est quoi alors à Misérville?
C'est comme vous voyez, on vit comme vous, on mange, on essaye de travailler, hein, dites.
C'est s'en sortir.
Et d'être quand même heureux.
Voilà, c'est ça. Alors ouais. C'est pas facile, vous savez, hein. C'est pas facile, hein.
Et alors aujourd'hui, vous allez manifester pour dire que c'est pas possible, cette misère à Misérville.
C'est ça. C'est la misère, voilà, c'est ça. Il faut que ça change. Faut que ça change à Misérville ou à partout, quoi, je veux dire. Ben,
ouais.
À partout comme à Montpellier, quoi. Bon, il faut que ça change, quoi.
Mais bon, on fait de notre mieux, on est militants.
Tous les jours, dès qu'on se lève jusqu'à ce qu'on se couche.
Voilà, puis des fois même la nuit.
Et d'ailleurs, en parlant de paye, les députés, les ministres, là, vous êtes payés, vous?
Ah bah écoutez, ça c'est un peu tabou quoi, je veux dire là, bon,
c'est-à-dire bah, que... expliquer, on n'a pas trop le temps,
c'est ça.
On est, parce qu'on fait du social et
ouais, ça.
On peut pas expliquer.
Bah, c'est bon, il faudrait pas de... Bah, en fait, avant on s'appelait Flouzeville, vous voyez, il y en avait plein partout, et là depuis qu'on s'appelle Misérville, c'est la pénurie, et là c'est même nous, vous voyez.
Mais on est là pour lutter, pour dire que ça suffit, hein, qu'il faut de la fierté, hein.
Oui. De la fierté.
Oui.
De la fierté.
De la fierté.
De la fierté. De la fierté. De la fierté.
Bon, mais il faut garder espoir. On est là pour garder espoir.
Ouais.
Mundi, à bas la misère.
À bas. Là, le 17 octobre, journée mondiale.
N'abandonnons personne. Et on me dit que ça va commencer. Vous êtes bien gentils. C'est bien.
Allez.
La misère, on ne veut plus. La misère, on ne veut plus. La misère, on ne veut plus. La misère.
Alors je salue la prestation, mais comment les gens y réagissent à ça? Ça doit un peu détonner, non, sur le parvis de la Comédie?
Alors ça a réagi. Déjà la première chose, c'est que c'était important de voir que les gens qui manifestaient avec ces quatre clowns étaient morts de rire, arrêtaient pas d'aller leur poser des questions, étaient plutôt emballés par ce qu'ils avaient fait là.
Quand tu dis les gens, c'est les manifestants.
Les manifestants, oui, les gens, en fait, les manifestants, ils ont aussi la possibilité de manger avec un repas des Restos du Cœur sur la place de la Comédie. Donc c'était les manifestants qui ont passé toute la journée après place de la Comédie. Et en effet, eux, ils ont été plutôt, en tout cas ce que j'ai pu en voir, moi, plutôt enthousiasmés par la pêche qu'elles pouvaient mettre avec leur accoutrement et leur façon d'être un petit peu rigolote, d'aller interviewer tout le monde, d'aller demander qu'est-ce que c'était la misère à chacun des gens qui étaient présents. Et en même temps, il y avait donc des gens qui trouvaient ça complètement saugrenu. On va écouter...
Excuse-moi juste, mais je comprends pas du coup qui n'était pas emballé alors.
Ah ben, les gens qui passaient dans la
rue. Ah, les gens qui passaient dans la rue, d'accord, c'est ça.
Des gens qui passaient dans la rue, qui voyaient passer ce défilé, qui entendaient ces chants un peu, en effet, étonnants, et ils réagissaient d'une certaine manière, donc certains trouvaient les gens un petit peu fous, les manifestants un peu fous, vous allez écouter ça.
On n'en veut plus, la misère, on n'en veut plus.
Psychiatrique, c'est tout.
Vous pensez que...
Ouais.
Vous savez pourquoi ils font ça?
Oui, parce que ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre, il y a autre chose à foutre que ça. Voilà, il y a plein de choses, plein.
C'est-à-dire que pour vous, la journée du refus de la misère, c'est quelque chose...
C'est une question à la con. Tout le monde refuse la misère. C'est une question à la con, c'est tout. Mais alors, qui c'est qui est pour la misère? Non, mais on en trouve un?
Non.
Celui-là, il faut le prendre.
Mais alors...
Mais alors quoi? Il y a plein de choses, il n'y avait que ça, c'est général. C'est général. Il y a plein de choses à faire qu'on n'a pas fait pendant des vingtaines d'années. C'est tout.
Mais là, aujourd'hui...
Oui, mais c'est pas ça qui fait changer les choses. C'est pas ça.
Mais par contre, là, parmi les gens qui manifestent, a priori, il y a des gens de la rue, des gens qui dorment dehors et tout, qui aujourd'hui, une fois dans l'année, arrivent...
Alors, je vais vous dire un truc. Ouais. Si moi, on m'avait donné, quand j'étais jeune, des allocations décidées là, je serais peut-être comme eux. Voilà. Mais comme mon père m'a dit, tu y vas, sinon, ça va pas... J'y suis allé et je suis, Dieu merci, debout. C'est tout, ça reste là.
Donc à votre avis, c'est l'assistanat...
Mais il faut assister des gens, il y en a les pauvres qui ont besoin. Mais c'est pas comme on fait là, non. C'est pas possible. Il y en a qui en profitent du CZSEM, et je le connais par cœur en plus. Je vous dis pas pourquoi. Et c'est tout.
Alors effectivement, on ne peut être que d'accord avec la position bien claire et ferme de ce monsieur. La journée de la misère, moi, il y a quelque chose que je retiens. C'est vrai que c'est un peu étonnant de voir que dans nos sociétés, en fait, la misère, une fois par an, on peut se questionner sur le sens de cette journée, surtout le sens un peu de ce qu'on voit sur la comédie. Après, bon, je suis toujours...
Mais c'est une fête ou c'est plutôt une manif?
Alors, bah, c'est pas vraiment une manif, parce que, enfin, moi, de
parce
de
que ça, c'est, vu, excuse-moi, c'est institutionnel, c'est-à-dire, c'est qui organise ça?
Alors, la plupart du temps, c'est une journée qui est mondiale et qui est organisée au niveau de Montpellier, de ce que j'en connais, qui est organisée par notamment les associations caritatives de Montpellier. Donc, on peut citer les Restaurants du Cœur, ATD Carmonde, il y a la Maison des Chômeurs qui y est, il y a le CHRS Loustal, enfin, il y a plusieurs associations qui, comme ça, organisent des événements. Alors, je pense que la volonté, c'est d'essayer de sensibiliser un peu les passants sur la comédie à la réalité de la misère, à ce que c'est. La difficulté, c'est que c'est soit c'est un travail de fourmi, ça se fait tous les jours, soit en tout cas je suis pas sûre que ça soit la meilleure façon de le faire, parce que on voit aussi des choses, une distribution de colis sur la comédie, ça peut questionner, ça peut être aussi un peu choquant de faire venir à un moment les usagers des Restos du Cœur pour distribuer des colis.
En tout cas, nous, l'association Wakadi, on va quand même un petit peu contribuer à cette histoire de prévenir ou de faire se rencontrer les exclus avec le reste de la société. Parce que là, vous avez entendu donc des gens qui étaient plutôt de l'ordre des acteurs du social ou des citoyens qui réagissaient à cette manifestation. Les prochaines fois, puisqu'on on a pris le temps d'enregistrer des témoignages de personnes qui ont vécu la misère ou vivent aujourd'hui l'exclusion, on entendra à ce moment-là ce genre de témoignages-là. Et je pense que c'était un peu l'esprit de cette journée, c'est de faire que les gens se rendent compte comment on peut en arriver à être dans la rue, qu'est-ce qui peut faire, quel est le parcours de vie qui peut nous amener tous peut-être à se retrouver sur le trottoir.
L'intérêt, c'est quand même de cette journée-là, c'est bien de remuer les choses et pas simplement d'être dans la commémoration ou dans la fête ou comme la journée de la femme. C'est bien de marquer et de bousculer. Et donc justement, la distribution de colis, c'est ce qui se passe finalement quasiment tous les jours dans plein d'endroits en France, enfin pas qu'en France, mais en tout cas en France.
Mais je suis pas sûre que ça bouscule les passants. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver justement à donner la parole à ces gens quand il y a ces manifestations sur la comédie, à arriver à les faire parler d'effectivement de ce que c'est au dehors des discours, au dehors des représentations un peu que tout le monde en a. On le voit très bien lors du reportage, hein, la personne qui parle d'assister, c'est quand même aujourd'hui la représentation la plus commune, hein. On est en train de responsabiliser les gens, ils sont dans la rue mais c'est leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'en sortir, et peut-être d'expliquer que les choses sont pas si simples que ça. Et je pense que
d'organiser le débat,
d'organiser vraiment le débat. En fait, ça fait plusieurs années que ça existe et il y a toujours pas de débat sur comment on en arrive à cette misère, sur comment elle touche de plus en plus de gens, et je pense que c'est ça qui arriverait peut-être à faire réfléchir la plupart des gens qui vont tenir un discours du « c'est ta faute ».
Ok, bon, y a du boulot, quoi. Bon, Jean-Jacques, la traditionnelle question, ça va mieux ?
Ouais, ça va mieux, mais ça va aller mieux tout au long de l'année, puisqu'on va les entendre tout au long de l'année.
Super.
Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublé, elle me dit « Oh, qu'avez-vous ?» Moi, j'ai répondu « J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encadre sur l'abdomen, qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dévide, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, le sternum c'est tout comme, j'ai le nombril tout envrayé, le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai l'ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guibolles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais. Les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain, en plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est d'avant, j'ai les pites qui s'irritent, et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les mollets font la pierre, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit, et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle, et du cou. Voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah, vous l'excitant, vétant, l'étonne, toujours pas drague. Ah, vous l'excitant, vétant, je suis très bien pour moi.
Si on O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi. Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Alors,
Alors maintenant qu'on s'est un peu occupé de la santé de Jean-Jacques et qu'on est rassuré, on va peut-être parler de la santé en général. Alors avec nous aujourd'hui, en exclusivité, il y a Olivier. Alors Olivier, c'est sa première émission de radio avec nous et il commence fort parce qu'il est là à la fois en tant qu'animateur, mais il est aussi également infirmier, donc il va nous apporter son éclairage. Donc il est chaud bouillant, avant le début de l'émission déjà, il avait commencé. Ça va Olivier ?
Ouais, ça va très bien, merci.
Donc du coup, on s'est penché sur la santé en général, enfin la santé en France surtout en particulier. Donc pour préparer l'émission, on a fait, vous en doutez, de longues heures et de longues démarches de préparation. Et on est allé se demander ce que ça voulait dire la santé. Donc on est reparti de la définition de l'OMS. Alors, comme on nous l'a fait remarquer il y a plein de temps, elle est vieille cette définition.
Alors l'OMS, juste.
L'Organisation Mondiale de la Santé.
Merci.
Non, mais, Guillaume a l'impression que les auditeurs sont incultes, mais tout le monde
sait ce
que c'est que l'OMS.
C'est moi qui suis inculte, pas les auditeurs.
Non, mais c'est pour ça que j'essaie de te sauver la face en disant que tu parlais des auditeurs. Donc j'en reviens à ma définition quand même de l'OMS sur la santé. Alors ce que nous dit l'OMS, et vous allez voir, ça va beaucoup vous plaire, la santé est un état de bien-être total, physique, social et mental de la personne. Ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité. Alors moi, la question du bien-être total, ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais bien que Émile nous en parle un peu, parce qu'en tant que médecin, je pense que c'est quelque chose qui doit peut-être aborder.
Oui, c'est un état qu'on aimerait tous, auquel on aimerait tous accéder le plus souvent possible.
Est-ce que quand tu fais des études de médecine par exemple, c'est quelque chose que vous avez en tête qui est discuté à la fac de médecine par exemple, cette histoire de finalement si c'est le médecin c'est celui qui s'occupe par définition de la question de la santé, et est-ce que la question de la santé comme vous la présente c'est cette question là ou c'est plutôt la question de la maladie?
Alors la définition de l'OMS, moi je l'avais entendue effectivement au tout début de mon cursus, au début des études de médecine, on nous présente cette définition de la santé de l'OMS. Moi c'est pour cette définition, mais même avant de la connaître, que j'ai voulu être médecin. C'était dans ce but-là, parce que j'ai toujours eu envie d'aider mon prochain et d'aider mon prochain dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la santé. Après, ce qui est probablement un petit peu déroutant et un petit peu décevant au sein du cursus médical, enfin tout au long du cursus médical, c'est qu'on s'aperçoit qu'on s'occupe principalement des maladies et qu'on nous apprend à soigner les maladies et que le côté psychologique ou mental de la personne qu'on a en face de nous est laissé de côté. On nous apprend surtout à opérer, à donner des médicaments qui vont traiter telle ou telle maladie, mais le côté psychologique de la maladie, le côté psychologique du malade est assez souvent laissé de côté. On n'a pas de formation de psychologie pendant notre cursus, ça c'est, je trouve, un grand problème.
Ça c'est quelque chose dont on se rend compte quand on fait des études de médecine. C'est-à-dire que ça manque à un moment donné, ou est-ce qu'on est pris dans... C'est des questions qui viennent plus tard, parce que vous faites des stages quand on est d'externe, ce qui s'appelle l'externat, interne, après avec de plus en plus de responsabilités, donc vous allez dans les services, vous êtes confronté à des patients, enfin voilà, donc est-ce que c'est quelque chose qui apparaît de suite ou est-ce que c'est plus tard?
Je pense que ça apparaît selon les personnes, plus ou moins tôt au long des études médicales. Moi je l'ai ressenti très tôt. Du coup, j'ai fait un effort personnel. C'est un effort personnel pour essayer d'être au plus proche des patients, au plus à l'écoute des patients et de leur ressenti de la maladie. D'autres médecins ne l'approchent jamais, malheureusement. D'autres l'approchent plus tardivement. Je crois qu'on est tous différents. Après, on fait des métiers différents. Je pense qu'en fonction de la personne qui fait des études de médecine, on a des métiers et des façons de faire de la médecine qui sont totalement différentes à la fin.
Et là où on l'exerce aussi, non, peut-être? C'est peut-être pas du tout la même chose.
Et bien entendu, ça en découle aussi de son choix d'exercice. Et pour une même spécialité, on peut exercer une même spécialité dans des différents endroits. Et voilà, je crois que mon choix de travailler dans le public découle de là. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence pour moi que de dire que non seulement j'ai envie d'essayer d'approcher tous les domaines de ce qu'est l'absence de santé, donc physique, morale, mais aussi chez tout le monde. Et ça, c'est d'où mon engagement dans le service public.
Mais alors justement, ça fait un petit moment qu'on parle du système public de la santé en France. Alors ça fait des débats qui durent, il y a eu plusieurs tentatives de réforme. Enfin moi, j'ai l'impression de toujours entendre dire qu'on va réformer le système de santé. Et là aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui se posent sur justement l'opposition entre le public et le privé. C'est quelque chose qui est ressenti vraiment quand on travaille dans le public, de pas du tout travailler avec les mêmes conditions que dans le privé ou de la même qualité de prise en charge, parce que c'est quelque chose qu'on avance.
Ou les missions même, peut-être. Il y a plusieurs questions en fait.
Oui.
Tu préfères qu'on t'en pose une à la fois.
Alors tu vois, j'avais commencé à poser une question et puis lui il arrive et... Je repose ma question.
J'avais peur d'oublier ma question en fait.
Oh, alors ta question là est beaucoup plus large que celle que tu avais posée au début. Oui, il y a une différence publique-privée. Par contre, ta première question c'était est-ce que quand on est dans le public on sent une différence de conditions de travail par rapport aux médecins ou au personnel. Moi j'aime bien parler des soignants au sens général. J'aime pas. J'aime travailler à l'hôpital pour l'équipe. Je bosse avec une équipe de soignants. Je pense que c'est en équipe qu'on arrive à faire quelque chose. Je crois que dans le public ou dans le privé, si on a cette ambition de prendre les patients dans leur globalité et de s'occuper de tous les pans de la santé au sens de la définition de l'OMS, on peut arriver à faire du bon boulot. Les moyens ne sont pas les mêmes, et souvent, après, c'est la pression qui est derrière, qui n'est pas la même. On commence à ressentir à l'hôpital public des pressions que nos confrères et collègues du privé ressentent, eux, depuis des années. À savoir que... On nous demande de plus en plus une efficacité, pas en termes de soins. C'est pas l'efficacité en termes de soins qui est critiquée, parce que je pense que le public et le privé sont efficaces, chacun dans leur domaine, mais on nous demande une efficacité financière. On nous demande de gérer l'hôpital et de gérer la médecine comme on gère un supermarché avec des rayonnages et des profits, et de faire des profits.
Alors à ce propos, on entend sempiternellement parler de ce fameux trou de la sécurité sociale. Mmh. On va écouter quelqu'un qui fait partie de la même association, donc de la MUF, Patrick Pelou.
Patrick Pelloux, ouais, qui en est le président d'ailleurs.
C'est ça.
T'as pas révisé.
Ouais, j'ai failli penser à un joueur de rugby, donc c'était un peu fou, c'était Pelloux. Donc Patrick Pelloux, qui est là, donc, dans l'extrait qu'on va entendre, est en débat avec Éric Zemmour, qui essaye de dire que...
C'était une émission de télé, hein, c'est ça?
C'était une émission de télé avec Laurent Roquet. Et la question, évidemment, c'est sur les nouveaux projets gouvernementaux, la question de la franchise notamment. J'ai l'impression que Patrick Pelloux n'est pas tout à fait d'accord avec cette question-là.
Alors voilà, pour bien comprendre, c'est dans le programme du candidat Sarkozy, c'est de dire qu'il y aura une franchise comme pour les automobiles, c'est-à-dire que par exemple une franchise pour le médicament, jusqu'à 100 euros où vous achèterez vos médicaments, vous ne serez pas remboursé, etc. Alors, ça va être très difficile pour bien sûr les personnes les plus pauvres. Ça va être très difficile pour les personnes...
Ça va être modulé en fonction des revenus. Hein.
Pour l'instant, nous partons de l'hypothèse, parce que ça n'a pas été détaillé plus avant, Eric, dans leur
projet. Mais M. Fillon a dit que justement, les plus défavorisés n'auraient pas cette franchise.
Oui et non, parce que je voudrais juste vous signaler que nous allons en être au énième plan sur l'assurance maladie et que les exonérations de charges que l'État a accordées au cours des 10 dernières années, pour ne pas dire gaucher, mais tout le monde a accordé, l'État n'a jamais... redonner cet argent à l'assurance maladie, ça se chiffre jusqu'à 2 milliards de francs pour certaines exonérations qui ont été faites. Donc c'est de l'argent. Lorsque, c'est pas de la démagogie, mais je vous assure, en 1944, lorsqu'ils étaient dans les caves, en train d'inventer la sécurité sociale, alors que la France était exempte de tout, et que les mecs, syndicalistes comme politiques, gaullistes comme communistes, se sont dit on va construire un système basé sur la solidarité nationale. Pourquoi 60 ans après, alors que nous sommes l'une des puissances économiques les plus importantes au monde, on n'arrive pas à rééquilibrer ses comptes. Et la franchise, Eric, la franchise ne changera rien. Quand il y a eu les mesures, notamment quand ils ont dit les gens vont payer 1 euro la consultation, il va y avoir le parcours du médecin traitant. Vous allez voir, engagement à l'époque de Philippe Douste-Blazy et de Xavier Bertrand, on sera revenu à l'équilibre dans 2 ou 3 ans.
Une minute simplement pour dire que cet argument de 44, je le connais bien, il a raison. Mais il oublie simplement de dire que c'est qu'à l'époque, l'espérance de vie n'était pas à 80 ans et qu'en plus, les progrès technologiques ne coûtaient pas, ne faisaient pas que les machines maintenant et les traitements coûtaient une fortune. Oui. À l'époque, la médecine était assez sommaire.
Mais...
Donc c'est quand même important, ça coûtait beaucoup moins cher.
Mais en même temps, notre pays a prospéré. Il faut faire partager les richesses et ce n'est pas de la politique, c'est faire partager les richesses.
Vous dites, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis pour les malades.
Oui, c'est très bien. Ouais.
En fait, ce qu'on s'aperçoit dans ce reportage, c'est que ce débat sur est-ce qu'il faut conserver un système de santé en fait qui permet un accès aux soins à tous à moindre coût, c'est-à-dire qui est un système solidaire, un système qui est financé par répartition, c'est encore viable parce qu'on nous dit à la fin, ils nous expliquent qu'aujourd'hui la population a vieilli, que le coût des soins est beaucoup plus onéreux, que finalement on n'a peut-être plus les moyens d'assurer ce système-là. Est-ce que c'est une réalité ça ?
Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est tout bêtement une volonté politique. Il suffit d'avoir envie de financer un système de soins et envie que sa population soit correctement soignée pour qu'on puisse le faire en France, qui est un pays riche. Je pense qu'on a les moyens, si on décide de le faire, de le faire. Après, réfléchir au fait que la santé coûte le moins cher possible pour faire des soins de qualité, je suis tout à fait d'accord. Réfléchir à d'autres systèmes de financement de la sécurité sociale, pourquoi pas, mais en tout cas, je crois que c'est une histoire de volonté politique et que quand on nous dit que c'est plus possible et que le système va se casser la gueule et que la Sécu va mourir. Parce qu'elle est en déficit et qu'on n'a plus les moyens de payer le déficit. Oui, si on s'arrête là, alors à ce moment-là, on ferme la boutique et c'est chacun pour soi dans son camp. Et ceux qui auront les moyens de se soigner iront soigner et les autres iront